Genève avec Sophie Lemayour, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes établie à Genève depuis de nombreuses années.
Tout à fait.
Et vous êtes née dans le sud de la France.
Oui.
Et déjà toute jeune, j'ai lu que vous étiez très inspirée. Vous êtes artiste visuelle, créatrice aussi avec des mappings. C'est pour ça qu'on vous rencontre entre autres. Et ça a commencé très très jeune, cette inspiration.
Oui, je pense que après la nature en soi qui nous entoure, l'environnement, les étoiles, le cosmos, c'est quelque chose qui peut vraiment être passionnant et une source d'inspiration incroyable pour un travail créatif.
La nature, le cosmos.
La nature, le cosmos, après...
Le tellurique, le cosmique aussi.
Oui, c'est ça. Et puis, j'ai aussi une partie de ma famille dans le milieu médical, ce qui aussi, avec ces revues qui traînaient souvent, avec des dessins, des illustrations du corps humain, de l'intérieur du corps, des cellules, c'est aussi quelque chose qui m'a assez fascinée.
Alors là, prochainement, en fait, on était mis en contact parce que vous allez faire un mapping sur le Victoria Hall dans le cadre de ce nouveau festival consacré aux compositrices oubliées. Alors avant de parler de ce festival, compositrices oubliées, le statut de la femme en général vous interpelle, vous inspire aussi dans le statut, dans la société, dans l'histoire.
Bien sûr, c'est clair. En plus, d'autant plus avec la société qui évolue et je suis assez positive, enthousiaste et plutôt... j'essaie de... comment je pourrais me dire ça ? Le côté... comment on voit que ça bouge par rapport à la génération de ma grand-mère, de ma mère ou de moi, ou finalement avec aussi le mouvement MeToo qui a fait bouger les choses. Et puis aussi travailler par exemple avec la compositrice harpiste Julie Campiche qui travaille son prochain album sur Unspoken, sur les femmes qui ont agi dans le monde entier pour la bonne cause de l'humain mais aussi de la femme. Et c'est nécessaire. Ça donne envie de se bouger. Si on peut montrer quelque chose, si on peut à notre échelle faire bouger les choses et puis ouvrir les esprits et d'avoir une égalité, ça serait incroyable.
Et peut-être leur rendre hommage aussi, Sophie, puisque on pense à ces femmes pendant la guerre, par exemple, qui étaient sur tous les fronts, sans jeu de mots, pendant que les hommes étaient évidemment en train de combattre. Mm-hmm. Mais elles maintenaient à la fois les campagnes, elles maintenaient la maison, elles maintenaient les soins. Elles étaient partout, l'enseignement.
Oui, c'est clair.
Et on les a un peu oubliées.
Complètement. D'autant plus, là, justement, sur le Victoria Hall, la belle initiative d'Amélia qui...
Amélia Feuilleur,
où on se rend compte qu'il y a des noms d'hommes gravés sur la façade, mais qu'il n'y a aucun nom de femme. Donc, c'est l'objectif de ce projet, c'est de montrer, mettre en lumière ces noms, passés et présents, en projection mapping, mais dans l'espoir, peut-être, un jour, de les faire graver en réel, dans la pierre.
Ça sera déjà un bon début, peut-être oui, une source d'inspiration. Alors Sophie, vous parlez de mapping, mais vous touchez à tout.
Oui.
J'ai vu que vous faisiez tout ce qui est organique aussi, la poterie, les foulards, les tissus. Mais en même temps, vous avez plein de médiums qui vous inspirent. Sans préférence, j'imagine que tout vous plaît, tout vous inspire aussi.
Oui, justement, j'aimerais beaucoup travailler le métal, le bois, la céramique, j'avais envie d'apprendre d'autant plus les émaux, comment on crée aussi les couleurs.
Ça a l'air difficile parce que
c'est aussi scientifique, ouais, c'est ça. Il y a haute température, basse température, ça dépend de la terre et puis ça dépend aussi de l'épaisseur, ce que je fais autant du tournage que du modelage que du colombin. Enfin, j'essaye un peu d'expérimenter toutes les matières et toutes les. Ouais, la sérigraphie, j'avais adoré, la gravure, c'est chose que. Enfin, c'est infini. Vivement la retraite pour pouvoir faire ça à temps plein.
Déjà avant la retraite, vous êtes très active, voire hyperactive, mm-hmm. Mais tout ça en autodidacte?
Alors, non, je suis des formations. Je sais que la poterie, soit je m'inscris à des stages d'une semaine ou d'un week-end comme ça. Mais là, j'ai la chance d'être faire partie d'un la Motte, c'est un atelier à Grand Pré qui est incroyable, où il y a beaucoup de femmes et puis aussi qui justement on peut apprendre et c'est pas très cher et on peut apprendre et donc expérimenter. Parce que c'est vrai que les stages c'est vite cher et puis c'est limité dans le temps. Après, je sais que le mapping en soi, j'ai appris à l'usine, au zoo, ma grande école, avec le mapping festival. Mais voilà, après, ça a été vraiment par moi-même d'aller créer son contenu, expérimenter avec différents types de musique. Au début, c'était de la goa, la dubstep, la techno, au reggae. Et donc, c'était comment le visuel va s'adapter en fonction de l'univers sonore. Et après, de l'espace. C'est ça aussi qui m'a, dans un deuxième temps, plu.
Sophie, vous venez de mentionner l'usine, au lieu de la culture alternative à Genève. À l'époque, il y avait aussi Rhino, plusieurs endroits. Ouais. J'imagine que l'usine, ça a été un vivier pour vous.
Ah, complètement. C'était une découverte incroyable pour moi de voir que tous les week-ends, l'installation visuelle changeait, que des VJ internationaux étaient invités. C'était pas focus que musique, c'était l'univers dans lequel on plongeait l'audience. Cinéma. Et cinéma aussi, avec le Spoutnik. Non, c'est incroyable. Et le théâtre du TU. Enfin, toute cette boîte. Puis j'ai eu la chance d'avoir un atelier avec Julie Semoro à l'étage, donné par la ville pendant 3 ans, et le FMAC. Donc ça a été aussi, en sortant de l'école de la HED, j'ai pu avoir 3 ans, 80 mètres carrés à temps plein, donc sans travail. Donc j'étais un peu à vadrouiller comme ça et à expérimenter au max pour faire de nouvelles images, expérimenter les espaces. Et puis et là maintenant, petit à petit, je suis plutôt sortie du club et faire plutôt des projections pour des musées, des spectacles, théâtre, danse. Et c'est très intéressant de voir comment l'image va s'adapter au rythme, parce que l'audience là, en l'occurrence, elle est assise, elle regarde, elle observe, ou dans le musée, on est seul avec l'œuvre, on est au calme.
On déambule.
Donc c'est un rapport différent qui est enrichissant. Et j'ajouterais qu'aussi, ce qui me plaît le plus, je crois, c'est les collaborations avec qui je vais. Donc que ce soit un scientifique, un architecte, un urbaniste, une artiste, une harpiste, une enchérégraphe, hein. Tout ce mélange, ces échanges qui enrichissent ma vie personnelle et après la création.
Bon, Sophie, je riais pendant que vous répondiez parce que, en fait, vous avez...
C'est la prochaine question.
C'était les prochaines questions, les trois. Donc, soit vous avez les yeux qui sont à 360 degrés, magnifiques, soit on est vraiment connectés, les grands esprits se rencontrent. Il y avait l'aide, je voulais parler de ce que ça vous avait apporté. Vous avez aussi parlé des collaborations. Il y en a eu de nombreuses, dont celle avec votre frère aussi. Et puis, après, on poursuivra, mais enfin, déjà l'aide, tout d'abord, cette formation à Genève.
Bah, moi, je débarquais de Paris où j'avais fait un petit BTS en communication visuelle. Donc, j'avais choisi ce nouvel inconnu de ce pays, cette ville que je ne connais pas, où je ne connais personne. Je suis arrivée avec ma petite valise et puis j'ai découvert un monde. Après, ce que j'ai adoré, c'était le matériel à disposition, parce qu'on avait des studios incroyables, des caméras dans tous les sens. Je sais qu'avec un ami avec qui j'ai passé le diplôme, là, Gaspard de Gigon, Gaspard de la Montagne, qui maintenant a son atelier à La Chaux-de-Fonds, Spitzhorn Studio, on a été complices pendant les 3 ans. Et on croquait tous les week-ends l'atelier, les studios. On était les derniers élèves qui partaient parce qu'on avait envie de profiter à fond des locaux.
Et des possibilités qu'ils offraient.
C'est ça, les workshops, les intervenants qui nous venaient, c'était magnifique. Après, je dirais que c'est pas forcément ce qui m'a forgée. On en parlait hier avec une amie qui elle, a fait les calmes. Mais après, je pense que c'était un bon cadre, mais je crois que où j'ai appris le plus, c'est par les gens et l'usine.
Les rencontres. Et Sophie, vous avez mentionné donc les collaborations, pardon, il y en a eu de nombreuses. Et de temps en temps, votre frère vous épaule.
Oui, c'est ça. On s'épaule sur certains projets. Sur certains projets, ouais. Ça tout dépend. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a de la demande. Et puis, je crois que j'arrive plus à faire ça toute seule. Donc, je vais essayer de créer peut-être une équipe pour m'entourer et puis partager davantage.
Et avec votre frère, vous faites par exemple des vidéos, des projections 2D, 3D?
Alors lui, il est spécialisé dans la 3D, 2D, motion design. Donc on a pu, et moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Moi, je suis plutôt carton-pâte, petit dessin, voilà, de la patauge, voilà. Et je ne suis pas du tout dans ce truc ordinateur. Donc ce qui fait que c'est intéressant de pouvoir ouvrir justement les perspectives dans les rangs du travail.
Et tout à l'heure, Sophie, vous avez mentionné vos travaux aussi dans les musées.
Oui.
On se souvient par exemple du Lanthenum à Neuchâtel.
Oui.
C'est aussi quelque chose qui vous stimule, qui fait galoper votre imagination.
Ah ouais, complètement. Bah déjà, les archéologues, c'est des passionnés, c'est une équipe incroyable. On a du temps de création aussi. C'est pas, il faut faire ça dans le mois prochain, c'est on a 1 an, donc on peut vraiment faire mûrir les idées, expérimenter de notre côté.
Et avec un certain budget.
Avec un budget aussi, ça c'est vraiment génial. Et puis justement, ouais, en fonction de la thématique, là justement on est en train de préparer, j'ai travaillé ça ce matin, sur la prochaine exposition qui aura lieu au Laténium le 3 octobre sur le site L'Île de Tromelin. une histoire vraie qui est arrivée en 1800 d'un bateau qui a chaviré avec des esclaves. Et donc il y a des survivants. Ils ont retrouvé des survivants 17 ans plus tard. Complètement dingue. Et nous, notre rôle, on va travailler avec Maxime, c'est de projeter sur une maquette réalisée par Adrien Moretti, le scénographe. Et c'est une maquette de 2 mètres sur 1. Et on va projeter justement tout l'univers qui était complètement aride. Il n'y avait rien, pas d'arbres, pas à manger, pas d'ombre. Et très difficile d'accès. Mais ils ont quand même survécu 17 ans. Complètement dingue. Donc ça va être le sujet.
Ça mérite aussi de leur rendre hommage. Comme aux femmes oubliées, parce que surtout cette histoire est méconnue.
C'était beaucoup de femmes dans les esclaves, ouais. Justement, c'est complètement dingue de dire que les blancs, les colons, avaient fait un bateau de fortune avec l'épave qui avait scratché pour s'en aller et en laissant tout le monde derrière. Enfin, comment humainement parlant on peut faire ça? C'est complètement dingue.
Remis dans le contexte du commerce triangulaire, on imagine que c'était normal.
C'est ça, complètement. Bah ouais, pour remettre dans le contexte, ouais, 1800, et avec... en plus, je crois qu'ils n'avaient même pas acheté les esclaves, ils les avaient volés. Enfin, c'était une histoire atroce.
Ça montre bien qu'ils n'avaient aucune valeur aux yeux des Blancs.
Ouais, complètement. C'est pour ça que c'est là où on se dit on a eu de l'évolution tellement importante et nécessaire et incroyable. Donc, merci, quoi.
Et ça vient compléter ce qui s'est entamé avec, par exemple, l'ablation, guillemets, de la statue de Depuré à Neuchâtel, parce que la Suisse était vraiment dans le déni de son passé colonial.
Ah ouais, complètement, c'est vrai, c'est clair.
Je pense que vous êtes du Sud, on voit à Bordeaux, il y avait la fameuse statue d'une esclave à Bordeaux, c'était la première reconnaissance de la France par rapport à sa participation au commerce des esclaves. La Suisse, elle a eu plus de peine à entamer ce processus.
Ouais, c'est ça. Au niveau des statues, mais même là, justement, c'est assez fou ce mouvement, même en Russie, où ils ont aboli les statues des anciens dictateurs. Pourquoi, en fait, les mettre à l'honneur? Est-ce que c'était des personnes effroyables?
Alors, en plus du mapping dont on va parler pour Victoria Hall, vous avez vraiment été séduite par le... Comment ça se dit? Vegging?
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça va, correct.
Bah, ouais, c'est ça, correct. Il y a le VJ, c'est le visual jockey, comme le DJ disco jockey. Et donc là, on va vraiment jouer les visuels en temps réel. Donc ça, c'est vraiment pour une pratique, pour un concert, pour un DJ. Après, une performance, je dirais qu'il y a une conduite vidéo où on a un suivi spécifique, comme pour un spectacle de théâtre ou de danse, qui se travaille en résidence. Et donc après, c'est vraiment une des scènes qu'on envoie à un temps donné d'une entrée d'un comédien ou d'une actrice. Voilà, il y a ces trucs de rigueur et de tempo sur une chronologie spécifique. Le VJing, c'est pou-pou-pou, on y va en fonction du ressenti, de l'énergie, du public, de la lumière. Du DJ, de la musique, voilà.
C'est en symbiose avec ces éléments.
C'est ça, exactement. C'est ça. Donc c'est vraiment deux parties. Il y a la partie plutôt live et plutôt conduite. Que j'utilise aussi avec les logiciels Genevoix, qu'il faut bien le rappeler parce que c'est quand même à l'honneur. Il y a Manmapper et Modulate. C'est ceux qui ont créé aussi le Mapping Festival. Et c'est des outils Genevoix que j'utilise tous les jours, quoi, pour cette pratique.
Et là, justement, comment vous pouvez nous parler, comment vous travaillez? Vous avez dit qu'il y a une résidence, vous travaillez avant, mais sur le moment, est-ce qu'il y a des adaptations selon le public, selon la réaction, selon les imprévus peut-être aussi?
Oui, justement, on croise les doigts chaque fois qu'il n'y a pas de bug technique, hein, que le beamer ne saute pas ou que l'ordinateur ne crache pas, parce que c'est arrivé et on est un peu face à... on ne peut rien y faire, donc... Là, après, je dirais que c'est clair que ce métier, c'est toujours un travail d'adaptation à temps plein, que ça soit avec le nombre de personnes, des collaborateurs, collaboratrices avec qui je travaille. C'est des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des nouveaux projets. C'est l'adaptation, ça, c'est clair que c'est un mot-clé en top de liste. Après, justement, ça va être souvent des mots-clés. Je vais faire des petits dessins. Je vais après essayer de...
Comme une partition?
Oui, c'est ça, comme un petit storyboard. Après, ça va être soit un travail de photo, ou un travail de dessin, ou un travail de vidéo. Et puis après, ça va être un travail d'animation, pour ensuite faire soit l'événement public, parce que c'est ça l'objectif aussi, et c'est ce que j'adore, c'est partager au public, et pas faire entre soi. Moi, j'aime bien être présente. Je ne pourrais pas travailler online, il y a des gens qui font des trucs online, ou envoyer ses fichiers à l'autre bout du monde. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien être sur place et voir et rencontrer les gens justement, partager l'émotion ensemble.
D'avoir l'interaction directe avec le public.
Exact.
Comme vous aimez tout ce qui est organique, la texture, le toucher, je me posais la question, vous mentionnez la photo, est-ce que la photo c'est que digital ou il y a de temps en temps un peu d'argentique peut-être?
Alors, j'en ai eu fait et qu'en plus j'ai mon oncle qui n'est plus sur ce monde mais qui était grand photographe et qui travaillait avec les Hasselblad à l'ancienne, qu'on a restauré avec mon ami et on a pu se faire une série d'une pellicule quand j'étais enceinte, donc assez mémorable, où on est allé développer à l'atelier des grottes.
En noir et blanc.
En noir et blanc.
Of course.
Donc ça vraiment super quoi, c'était un beau moment.
Mais aussi le fait de travailler, de les développer dans le bain, tout ça,
c'est
quelque chose d'organique très fort,
ouais, complètement.
Qu'on a perdu,
ouais.
Bien de temps en temps de le restituer.
Ouais, complètement, à fond.
À propos des lieux, vous avez parlé des lieux, vous aimez être sur place et non pas envoyer vos fichiers à travers la planète. Ce n'est pas moi. Ça aurait pu, mais ce n'est pas moi. Et donc les lieux ici à Genève où vous vivez, vous les avez déjà investis. Je pense à des mappings que vous avez fait à la place des Grottes, sur le BFM, le bâtiment qui est déjà très imposant, ou sur le mur des réformateurs qui n'est pas loin de nous. Tous ces lieux, comment ils vous inspirent chaque fois? Est-ce que ça, c'est l'histoire du lieu qui vous inspire? Est-ce que c'est juste l'architecture ou...
Je dirais qu'il y a de l'architecture. Après, voilà, pour ce projet-là que vous mentionnez, ces projections sur bâtiments, c'est souvent pour ce projet CityColor, où je collabore avec une illustratrice et une personne qui fait la sélection musicale. C'est souvent aussi d'un point de vue technique de pas couper une rue parce qu'au niveau autorisation c'est compliqué, ou d'avoir plein de spots à éteindre. Le mur des formateurs c'est parfait, on est dans le parc, c'est sécurisé aussi si on a des enfants. Il y a ce cadre, et puis c'est des grands murs, les statues on peut s'amuser avec, hein, on a pu faire ça plusieurs fois avec Poppy Matigo, Laura Tuntoy ou Camille Lacroix. Mais le BFM c'est parfait aussi, en fait dès que c'est une place sans trop de lumière,
sans trop de sécurité,
c'est top. Après le travail d'architecture, il faut qu'il y ait de l'espace, il ne faut pas que ce soit vitré, parce que sinon la projection ne fonctionne pas, il faut que ce soit des murs, et puis après on s'amuse avec, c'est vraiment un terrain dur.
Mm-hmm. Donc par rapport à ce que vous allez faire justement en septembre sur le Victoria Hall dans le cadre du festival consacré, la première édition consacrée aux compositrices oubliées,
oui.
Là c'est un bâtiment qui a toute une histoire,
oui.
Mais effectivement il n'y a pas le nom des compositrices.
C'est ça.
Alors
ça
comment avez-vous...
L'objectif, voilà. C'est... Bah, y a déjà la première chose, c'est la thématique de l'architecture aujourd'hui, cette année sur la journée du patrimoine, matrimoine. Et donc,
bien, matrimoine.
Voilà. Et donc l'idée, c'est de mettre en valeur cette architecture par quelque chose de très simple, en ligne, pour mettre en lumière ces courbes, on va dire. Et ensuite, c'est vraiment le travail d'Amélia de répertorier tous les noms d'artistes, tous les noms de compositeurs inscrits, gravés, par trois périodes. Il y a la période baroque, la période impressionnisme, et la période romantisme et la période modernisme. Et actuel. On part vraiment sur le côté contemporain aussi, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et donc après, on allume les noms des artistes hommes et aussi on va mettre, inscrire, rajouter les noms des artistes femmes. C'est ça le plus gros du travail. Et après, je mets quelques petites, soit dessins ou textures, pour allumer un petit peu le fond. Parce qu'on était un peu limité vu que c'est une rue passante avec des véhicules. On ne pouvait pas trop faire du tch-tch-tch.
Donc la rue ne sera pas fermée à cette occasion?
Je crois pas, enfin je sais pas, peut-être à confirmer, mais il me semble pas.
Et ma question, puisque ces compositrices, elles sont passées aux oubliettes, de l'histoire de la musique comme de l'histoire tout court, est-ce qu'il y aura quelques portraits ou pas?
Non, on est vraiment resté sur le nom. Mm-hmm. Mais le projet n'est pas encore validé à 100% parce que c'est le 13 septembre, donc on a encore du temps pour travailler dessus et faire des échanges avec Georges et Amélia. Donc peut-être qu'il y aura d'autres éléments d'ici là.
Et puis, vous avez aussi travaillé avec le Berlinois Robin Walensky.
Oui.
Vous pouvez nous en dire plus?
Bah, il me manque. Il est parti vivre à Santiago de Chile.
Ah, quel est plutôt l'héro.
C'est l'héro. Alors, je suis allée le voir. J'ai eu la chance d'aller le voir il y a 3-4 ans, comme ça.
Au
Chili, pour faire une projection sur le bâtiment. Où lui, en l'occurrence, il dessine une peinture, une fresque murale sur le bâtiment. Et moi, j'anime en projection sa peinture à grande échelle. Et c'est ça qui est hyper intéressant. En plus, il a un univers graphique, ligne noire, très épaisse, un peu à la Kisaring. C'est vraiment intéressant. Et peut-être qu'un jour, il rentrera en Europe et qu'on pourra continuer à collaborer ensemble. Mais entre-temps... entre-temps, voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait fait Berlin, Paris, Berlin, Genève, Bruxelles et Santiago. Donc là, l'idée, on s'était dit peut-être une autre ville, une autre capitale, on verra.
D'Amérique du Sud.
Alors j'aimerais bien, hein, moi, s'ils m'invitent à fond. Hein.
Et j'ose vous demander à Santiago, quel bâtiment ?
C'était à la Casa Compañía, et qui est un lieu culturel où il y a autant des workshops, des formations, il y a des petits shops de tatou, de poterie, il y a plein de petits artisans, il y a un café sympa, donc c'est vraiment un lieu qui vit et qui est un peu en mutation tout le temps, d'événements aussi, ils ont une grande terrasse, donc il y a plein de choses comme ça.
Donc un lieu où vous êtes senti comme un poisson dans l'eau.
Ah ouais, j'ai adoré. J'ai pu faire aussi un workshop là-bas, voilà. Première fois en espagnol. Alors j'ai pataugé un peu avec mon espagnol qui n'était pas au top, mais c'était c'est trop chouette d'avoir ce partage avec ces gens qui en veulent et qui sont très féministes aussi. Avec le Ocho Aimé, j'ai eu la chance d'y aller, qui est incroyable, où c'était 100 000 personnes dans la rue, de femmes, parce que les hommes ne sont pas les bienvenus. Et c'est tout en violet, les chants, les percussions. Alors on a déjà cette énergie aussi, je trouve, à Genève, qui ça frissonne, ça donne des frissons et ça remplit d'énergie, je trouve, et de donner envie de combattre aussi, et d'y aller et de faire bouger les choses, et d'intervenir quand il y a une injustice, de plus laisser passer les choses. Donc c'est vrai que c'est nécessaire, quoi. Mais c'est magique sur le moment.
Un des derniers films de Guzman était consacré justement à ce mouvement où on voyait essentiellement les femmes. Après, il y avait quelques hommes, en particulier la communauté LGBT, qui les avaient rejointes. Et ici en Europe, on n'était même pas au courant au début des mouvements de remise en question des injustices. C'était vraiment, on voyait qu'il y avait une mobilisation presque nationale.
Ah ouais, c'est fou ça. Bah, c'est vrai que ça a complètement... propagé et en même temps.
Ça a semé.
Ça a semé et en même temps, il y a des pays où ça revient en arrière et c'est affreux.
Quoi. Le voisin.
Ouais, c'est ça. Ou en Afghanistan ou en Yémen ou c'est, en Iran. Enfin, c'est complètement tragique, quoi. Ce qui se passe ou dans plusieurs pays d'Afrique aussi.
Moi, je pense à l'Argentine parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'acquis.
Ouais.
Et là, avec le nouveau président,
ouais.
Pour le statut des femmes, c'est dramatique.
C'est
on revient aux faiseuses d'anges.
Oui, voilà. Ouais, complètement fou. Hein. Ouais. Mm. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se dit mais c'est un pays. Non, c'est les États-Unis. Ah ouais, non, mais complètement fou.
Mm. Et puis les États-Unis qui ont déjà des. Puisqu'il y a la liberté de culte, des communautés religieuses, on pense par exemple aux Mormons, où le statut de la femme est quand même bien malmené.
Ouais, complètement méprisé, même inexistant. Enfin, c'est dingue.
Là, on entend les cloches, mais c'est pas encore pour le mapping. Vous parliez de la condition des femmes, mais la condition générale de l'humain, la dimension sociopolitique, inspire aussi vos œuvres.
Je sais pas. C'est-à-dire qu'on vit dans le temps dans lequel nous sommes, et puis après, ça va être l'actualité qu'on a, les gens avec qui nous sommes. Qui va, dans tous les cas, influencer, c'est clair, le résultat et nos vies, notre pensée, évidemment. Ça, c'est indéniable.
Sophie Lemayour, alors, on a parlé de tout ce que vous avez fait, ce que vous faites. Par rapport au festival, cette rencontre avec Amélia Feuilleur, comment ça s'est passé ?
Bah, super. C'est vrai que c'est quelque chose... c'est nouveau, elle m'a expliqué tout son parcours et c'est très touchant. Et puis on avait ce point commun aussi d'avoir jeune maman et donc devoir gérer autant la carrière, l'enfant, la famille et les hobbies, et les amis et tout ça, tout le chose. Donc après je suis pas la première du tout et donc pas la dernière non plus, mais c'est quand même un changement radical dans la vie et ça nous a quand même, je trouve, rapprochés de pouvoir parler de ça, comme avec Julie Campiche aussi qui était jeune maman là de nouveau en même temps que moi, on a été enceinte en même temps, donc voilà, c'est ça, et puis ça donne envie justement quand on rencontre quelqu'un de passionné en face, ça donne envie de tout donner, quoi.
C'est stimulant.
C'est ça.
Dans votre travail, vous aimez à la fois l'infiniment petit, l'infiniment grand. Là, ça sera l'infiniment grand, quasiment.
Oui, c'est vrai que la façade est assez grande.
Il y aura l'infiniment petit avec les noms des compositrices.
Oui, et puis j'ai rajouté des petits points un peu étoiles comme ça, qui peuvent vraiment faire ouvrir justement sur le temps.
Le cosmos.
Le cosmos et le temps qui passe, on va dire.
Et le cosmos qui vous inspire, comme vous l'avez dit en début d'entretien. Mis à part justement ce mapping qui n'est pas encore totalement terminé, qui est en élaboration, en gestation. D'autres projets dont vous pouvez nous parler, Sophie ?
Alors, qu'est-ce que j'ai en route ? Il va y avoir l'anniversaire de la Société des Arts l'année prochaine, les 250 ans. Donc on a prévu de faire un festival, il y aura une installation, mapping, projection, plus création de contenu sur le thème de Miro, où il y aura des danseuses de flamenco et des musiciens, musique classique. Ça va être un espèce de mélange comme ça. Et ça sera dans la salle des abeilles à la Société des Arts. Donc ça sera en juin prochain. Après, il y a Dour Festival, je crois qu'ils veulent me rebooker. C'est un énorme festival en Belgique, où c'est des gros panneaux LED et la scène, elle fait 20 000 personnes. Donc c'est assez réjouissif de pouvoir balancer mes petits dessins créés dans mon placard en immense sur cette scène. Et puis il y a l'Léthargie Festival aussi à Zurich, on en revient avec mon conjoint, où on a une carte blanche pour faire des projections et c'est une entente très familiale. Le cadre, c'est à la Rote Fabrique, donc c'est un peu comme l'usine Kugler, c'est une ancienne usine de soie et c'est un centre culturel actuellement et enfin depuis longtemps. Et c'est génial, c'est un peu nos rendez-vous à chaque fois pour passer l'été. Allez, fête, travail, amis, vacances.
Et culture alternative.
Ça c'est top, c'est un peu le bon cocktail.
Par rapport à Robin, qui est parti vivre à Santiago de Chile, c'était votre comparse pour créer le collectif Attrape.
Ouais,
il existe toujours ou pas?
Il s'endort. Dans l'idée, c'est que le jour où on pourra, faut qu'on soit ensemble pour créer, que ce soit pour un mapping ou une installation ou une projection sur le bâtiment. Donc, soit un jour j'aurai un projet et je l'inviterai, soit lui aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas de perspective. Enfin, on n'a pas de projet en cours.
Pour l'instant, il sommeille.
Ouais, voilà, mais il n'est pas oublié.
Il n'est pas oublié.
C'est sûr.
Merci beaucoup, Sophie, pour l'entretien.
Merci.
On se réjouit de découvrir ce mapping le 13 septembre.
Exact.
À partir de quelle heure?
Alors déjà, la mapping, on a besoin de la nuit, donc faut pas l'oublier.
C'est encore la fin de l'été, voilà, début d'automne.
Voilà, début septembre, donc je ne sais plus de tête, ça sera vers 20h30, 21h comme ça.
Mm-hmm. Rendez-vous donné, merci Sophie pour cet entretien passionnant.
Merci.
Et à tout bientôt pour un prochain entretien.
Merci à vous, bonne journée.